Brisons les classes.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mardi 23 janvier et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Comment ça va tout le monde?
Bonjour.
Bonjour, ça va très bien.
Et ça vous avez bien entendu la voix de Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de La Jenteloven.
Oui, le fameux livre dont on a pu parler à de multiples reprises, mais cette fois-ci, on va aller au cœur.
Yes.
Au cœur.
Et à la technique, comme presque tous les soirs, Emma.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien, merci.
Bon, là, tu vas nous parler de quoi ce soir?
Ah, moi, je vais parler des gens bizarres qui campent devant le vide monopolette.
Il y a des gens comme ça.
J'en dévoile pas plus.
Ouais. Et ben moi, je vais vous parler du film que je suis allée voir la semaine dernière, le film primé Anatomie d'une chute.
Ah, on a hâte que tu nous en parles.
Gros succès, ça.
C'est ça, c'est ça. Mais bon, en attendant, je pense qu'on peut démarrer par les news directes. Est-ce que vous avez vu que Ruter va changer ses tarifs?
Encore?
Du tout.
Là, à partir du 28 janvier, donc c'est-à-dire dans le week-end, les enkelt billets, donc les billets en une fois, vont augmenter.
Donc pour 40 couronnes, c'était pas assez cher.
Ouais, voilà, c'est maintenant c'est 42 couronnes pour les billets de une zone. Mais en fait, ils veulent réduire le prix au mois. Donc là, pour le mois, c'est 897 couronnes.
Ouais, attends, ça a baissé là.
Ça n'arrange pas du tout mes affaires, ça.
Ça ne m'arrange pas du tout.
Ben non, moi alors j'apprécie quand même sur Ruter, je fais partie du truc bêta où tu as des réducs là.
Et ben ça va s'arrêter. Malheureusement, ils vont arrêter
ça super, ouais. Évidemment.
Voilà, comme ça tu passes en mensuel.
Mais non, mais j'ai aucun intérêt à passer en mensuel, moi.
C'est ça, après tu peux prendre le billet de un jour, 24 heures, donc 127 couronnes.
Ah oui, il augmente lui aussi. Hein.
Et 7 jours, 352 couronnes. Donc en fait, il vaut mieux presque prendre direct que des billets au mois, quoi. Parce que 800 ou ouais, 900 couronnes.
Oui.
Bah ils avaient fait une promo l'année dernière, d'ailleurs, pour quelques mois.
Où tu peux acheter à l'année. Ça revient moins cher d'acheter à l'année, par exemple.
8 966. Ouais. Merci les calculs de Valentin.
Non, mais j'avais déjà fait le calcul pour l'année, ouais. Mais en fait, si tu pars un mois en vacances, c'est pas...
Oui, c'est ça.
Merci, mais non.
Merci, mais non, merci. Donc voilà, à partir du 28 janvier, donc, je pense que c'est en partie parce que la commune va un peu aider à la prise en charge du billet. Donc ils ont pu réduire, ils ont fait un espèce de... Oui, un truc sympa.
Un effort, tu veux
un
dire
effort, un
effort. Oui, c'est fou de ma gueule, tu parles d'un effort. Ouais, c'est encore
mais je pense qu'ils poussent les gens à prendre ce billet du mois, en fait.
Oui, hein. Mais encore faut-il l'utiliser.
Donc voilà, donc pas une bonne nouvelle pour toi, dis donc.
Bah non, pas du tout.
Mais moi je pensais que c'était pas aussi, je pensais pas que c'était aussi cher le billet au mois.
Bah oui, toi tu prends
je pensais que c'était moins cher que ça. Ouais. Bon, on verra. Ouais. Puis je prendrai le vélo.
Bah oui, c'est ça, dès qu'il fait beau, moi personnellement je suis cycliste. Mmh.
Mais c'est aussi ça. Possible, je vois aussi beaucoup de personnes qui vont au travail en courant.
Ouais.
Mmh. Oui, c'est vrai que toi
maintenant là.
Ouais, mais j'ai pas encore fait le travail en courant. Mais oui, il y a des gens, ils ont des bah après tu mets des running avec des clous.
Avec des clous, ouais. T'es prêt à ça là? Ça y est, tu t'es norvégianisé.
J'ai déjà couru avec les crampons, ouais.
Ah.
Et j'ai fait ça, ouais, assez tôt dans l'année. Mais ça bah, on va plus lentement, mais on accroche, quoi.
L'année prochaine, on va te voir en ski à roulette dès le mois de mai.
J'ai aussi découvert le plaisir du ski de fond, donc pourquoi pas.
Qu'est-ce que je disais? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un investissement de ski à roulette.
Je ne l'exclus plus maintenant. Là.
Il va nous faire Holmen Collen.
Mon anniversaire, c'est en mars. Voilà.
On note. Mais alors, du coup, tes premières en Langren, ça s'est passé comment?
Bah, du coup, c'était. En fait, ça a commencé. Mon histoire avec le ski de fond a commencé il y a très longtemps. Et il se trouvait que j'avais commencé à faire dans les Alpes, mais une fois, il se trouve que je gérais pas du tout les descentes. Quelle surprise.
Bah, tu n'es pas le seul. Ouais.
Du coup, j'ai retenté l'année dernière. J'étais avec mon coloc, pareil. Genre, ça ne marche pas. J'essaie de faire du chasse-neige. Ça ne peut pas freiner. Je pars en arrière, je tombe. Et après, je me suis dit, bon, bah, avant, jusqu'à les dernières neiges fondent, je vais me mettre à faire du ski de fond. Donc, du coup, j'ai pris une leçon avec un moniteur. Il m'a expliqué comment freiner. Et ça valait le coup parce que après je suis arrivé cette année et j'ai réussi à contrôler les descentes. Et je suis pas tombé de 2024. Et j'ai fait trois sorties en ski de fond. Là.
Alors moi je suis resté sur un traumatisme, tu vois.
Ouais, mais en fait un petit coup de moniteur et
c'est comme le vélo, faut ça te remet tout de suite.
Ça te remet en confiance et ça repart, ouais. Mmh. Tout est dans le centre de gravité qui est dans l'avant.
Et t'as des skis de cross country, t'as pas les skates.
J'ai skis de cross country,
c'est comme ça là.
Ouais, avec la peau en dessous du ski.
Le ski, ouais.
Ouais.
Ce qui fait que j'ai pas à mettre de wax. Y a pas de souci de ce problème là.
Mais j'avoue que je suis un peu à peu près au même stade. C'est-à-dire que les descentes où je connais pas, où ça va trop vite, trop fort, là, je me suis paralysée. Faut que je reste, en tout cas, en plus, faut que je reste dans les clous, quoi. Faut vraiment rester dans les traces.
C'est au choix. C'est soit tu sors du rail, du coup, t'es en chasse-neige, tu contrôles. Mais par contre.
Ah, mais moi, je suis un peu. En fait, moi, je suis passée. J'ai une grosse histoire de ski, mais j'ai quitté le ski à 14 ans pour passer au snowboard. Et depuis, en fait, toute la technique du chasse-neige, de virage...
Oh, on n'oublie pas ça, c'est comme le vélo.
Ah, mais ça remonte à beaucoup
trop
loin. Mais
c'est pareil, moi j'ai commencé le ski de piste à 4 ans. C'est vrai que du coup, pour le ski de fond, c'est chaud.
Mais ce qui change beaucoup, je trouve, dans le ski de fond, c'est le centre de gravité, en fait. Autant dans le ski alpin, je trouvais que le centre de gravité était plus... Ouais. Le point d'équilibre était davantage au milieu. Tandis que pour le ski de fond, il faut absolument le conserver à l'avant. Si tu ne conserves pas le centre de gravité, tu tombes en arrière.
Ouais.
Et à partir faut réussir à freiner en chasse-neige. Et une fois que tu arrives à jouer avec ça, je commence à bien m'en sortir de ne pas
mais
tomber.
Mais personne ne connaît un endroit plat.
Non, moi j'avais essayé à Greffselkollen. Il y a une première descente à prendre qui est super dure. Et après, c'est relativement plat. Ce qui fait que même une personne qui est débutante, elle s'en sort. Non, remarque, c'est pas mal.
À mon arrivée, j'allais au parc de Vigeland. Deux tours du parc et je repartais. J'étais là, c'est bon, je m'étais. Et puis
j'ai fait ma sortie annuelle. Voilà.
Oui, c'est ça.
On peut enchaîner avec la météo, hein, parce que là, il s'est passé vraiment n'importe quoi. Hein. Samedi, c'était moins 14, et dimanche, on était passé à plus 2.
Et puis encore avant samedi.
Et aujourd'hui, 7 degrés, les amis. Hein.
Donc là, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Alors là, c'est, je crois que les Norvégiens appellent ça le spring fool.
Ah oui, parce que là, carrément.
C'est vraiment genre, là, on se fait avoir, on croit que c'est déjà l'arrivée. Ouais. C'est le poisson d'avril, mais carrément janvier, quoi, voilà. Vérifions la météo en direct, car depuis ce matin, elle ne cesse de changer. Je dois vous avouer que j'ai regardé à plusieurs reprises. Et ça ne cesse de changer. On est entre la neige et la pluie.
Alors, on rappelle pour tous les gens qui viennent de débarquer en Norvège, plus particulièrement à Oslo, parce que c'est là où on vit, mais faites très, très attention aux chutes de neige et de glace. Là, les toits, c'est hyper dangereux.
Alors, dans le centre d'Oslo, c'est quasi réglé, j'ai envie
c'est
de dire,
réglé.
Avec la pluie. Il n'y a plus rien sur les toits.
Mais on peut le dire en préventif pour la prochaine fois, quand il va reneiger abondamment, ça va refondre. Non, parce qu'on n'a pas du tout terminé l'hiver, quoi.
Non.
Il ne faut pas se dire que c'est fini, pas du tout. Mais c'est ça vrai. Aussi le conseil, c'est de rester actif, de regarder ce qui se passe, de regarder les infos, parce que ou même à la télévision, il y a des infos super importantes à suivre. Pour savoir est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il ne faut pas sortir, comment s'habiller. Deuxième petite news de la semaine. C'est un peu le scandale, là, côté des ministres. Donc, Sandra Borch et Ingvild Kjerkol
sont dans la tournée. Les Norvégiens, parce que chez les Français aussi. Mais
oui, on va se concentrer sur...
On parle de choses inattendues. Hein.
Les deux ministres ont été accusés de plagiat dans leur thèse de maîtrise. Alors, ça a commencé par Sandra Borch, la ministre de la Recherche et de l'Éducation supérieure.
Et ça craint, ça.
Ah, ben, carrément. En fait, donc, elle a fait son master à Tromsø. Et en fait, il y a un étudiant qui a un peu fouillé, qui a retrouvé sa thèse et qui a corroboré cette thèse avec deux thèses antérieures, soumises une à l'université d'Oslo et deux à l'université de Bergen. Il y a un journal qui a repris l'enquête. Et voilà, ils ont bien remarqué que plusieurs parties de la thèse étaient des plagiats. À peu près 20% de sa thèse a été plagiée. Voilà, donc quand même plus de 10 000 caractères ont été plagiés. Et voilà, bon, ça la fout mal. Et puis, ben, quelques jours plus tard, Ingvild Kjerkol, qui est la ministre de la Santé... Ah oui, il faut que je précise que Sandra Borch a démissionné, jour même des révélations, elle a démissionné. Et la ministre de la Santé, Ingvild Kjerkol, qui, elle, a fait sa thèse avec une autre personne, la co-auteure Christelle Buan. Et du coup, oui, c'est...
Pareil, plagiat.
plagiat aussi, mais alors elle se défend, elle dit oui, mais on a notre propre introduction, notre propre conclusion. Donc c'est un peu à tourmente, c'est une affaire qui est en train de se développer à l'heure actuelle, on vous tiendra au courant.
Peut-être des gens qui ont passé leur, qui ont rédigé leur thèse avant qu'il y ait ChatGPT, donc...
Ah bah ça va arriver, hein, de toute façon. C'est quand même bizarre que ça arrive des années après, comme ça.
Bah attends, on peut croiser, on a la capacité pour croiser.
Bah c'est ça.
C'est comme, comme les cold cases qui sont résolus plus tard.
Hein. C'est ça, à voir si elle va démissionner, parce que c'est quand même un peu trop, là. Ça fait deux ministres d'un coup qui sont accusés de plagier leur master, quoi. Donc c'est un peu peut-être leur niveau de crédibilité. Et on a pris un sacré coup.
Effectivement, et après, ça vient en supplément de, d'une autre affaire aussi qui avait eu lieu. C'était avant les vacances de Noël. C'était là, du coup, la responsable d'une agence de cybersécurité du gouvernement qui avait... l'agence s'appelle NSM. Et NSM, du coup, devait déménager à Fornebu. Et il se trouve que le siège en question, enfin, le bâtiment qu'ils ont trouvé, il était en construction. C'était eux qui sont propriétaires. Et elle a contracté un emprunt au nom de NSM. Et en fait, normalement, tel que... fonctionne l'administration norvégienne, c'est pas l'agence qui est censée faire un emprunt, c'est l'État qui est censé emprunter. Donc du coup, elle s'est faite virer. Mais ce qui se passe aussi, ça aurait pu encore affaiblir le gouvernement, parce qu'en général, en fait, ce qui se passe en Norvège, c'est que quand il y a un directeur d'agence comme ça qui fait une connerie, bah, en fait, le ministre saute avec. Donc c'est et encore, je crois que la ministre de la et du coup, NSM s'est rattaché au ministère de la Justice norvégien. Et quand on a, et je crois que la ministre de la Justice était encore pris pour dans une autre affaire qui était du piston ou du favoritisme. Donc ouais, le gouvernement qui trimballe pas mal de casseroles, mais bon après, ça n'a jamais été un problème pour gouverner, hein.
Ouais, mais il me semblait que les pays scandinaves étaient quand même beaucoup plus transparents et beaucoup plus à cheval sur toutes ces choses-là, quoi. Donc,
Ah bah ouais, parce que d'habitude, t'es soupçonné, t'es out.
Ouais, j'ai l'impression qu'on en revient. Hein, genre, Erna Solberg, là, par exemple, c'est avec les affaires de conflit d'intérêts qu'elle a eu avec... Ouais. Enfin, que son mari a eu. Il y avait une certaine complicité qui était probable de sa part. Bah, elle reste, les gens continuent à l'adorer. Donc c'est...
Bah écoute, c'est un exemple sur le reste de l'Europe, j'ai envie de te dire.
Enfin, on nous regarde.
C'est ça, faites comme nous, faites comme nous.
Et pour continuer de parler d'argent, tu as vu une info sur le pétrole.
Eh oui, alors du coup, il y a deux semaines, on avait une manifestation contre l'exploitation des minerais en eau profonde. Et ben, je crois qu'une semaine après, ou cinq jours après, on avait à Sandefjord un congrès d'industrie pétrolière qui s'est réuni avec une manifestation d'extinction rébellion à proximité. Ouais. Et du coup, le ministre norvégien a annoncé qu'il allait octroyer le ministre de l'énergie norvégien a annoncé qu'il allait octroyer de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation à aux compagnies pétrolières. Donc, ce qui a encore déclenché pas mal une vive réaction de la part des organisations de jeunesse.
On a affaire à suivre. En tout cas, merci pour ces petites infos. On va peut-être s'aérer. Est-ce qu'on a un petit morceau
Eh ben oui, on va mettre Luna, la chanteuse franco-norvégienne.
On lui fait coucou.
On lui fait coucou, Luna. Si tu veux venir dans l'émission, viens quand tu veux. Et on va mettre son morceau avec qui commence par un petit joli hommage à PNL, ASP. À tout de suite.
Et de retour dans notre podcast Brisons la glace, on a écouté Luna, la franco-norvégienne de Bergen. Elle nous a chanté ASP, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Donc, super morceau. On a hâte de...
Feature Hibou. Je crois que c'est son frère, je ne suis pas sûre.
Sacré blaze. Sans transition, on va parler de la Jäntevägen.
Oui, parce que
ça fait longtemps qu'il faut qu'on en parle.
Ce qui fait moche, il pleut, du coup, on ne peut plus skier, donc il faut bien le dire. Hein. c'est bien un livre dont on entend parler, en tout cas après discussion entre expatriés ou curieux de la culture norvégienne. C'est, euh, C'est un livre qui s'appelle En Flygtning, Chrysler Sitspor, du danois d'origine. J'ai nommé Axel Sandemose. Et ce livre-là, du coup, a été publié en 1933. Et si je traduis vraiment le titre, ça donnerait Un réfugié croise son chemin. Alors, avant de parler du livre, on va un peu parler de l'auteur, parce que je trouve c'est assez intéressant. Bon, déjà, le livre en question, c'est qu'il est assez répandu en Scandinavie. En tout cas, c'est, quand on en parle au danois, au suédois ou au norvégien, c'est un livre qui revient souvent pour expliquer la culture scandinave. Une peut-être des raisons pour lesquelles le livre est aussi répandu dans ces trois pays, c'est parce qu'en fait, Axel Nielsen, c'est une personne qui a voyagé à travers ces trois pays. Alors, Axel Nielsen, en fait, c'est le nom de l'auteur. C'est juste son nom, en fait, qui portait à sa naissance. Alors, ce monsieur, du coup, Axel Nielsen, il est né au Danemark en 1899 de deux parents norvégiens. Il va changer de nom pour Axel Sandemose, qui est la contraction, du coup, du nom de famille, enfin, pour le nom de famille, qui est la contraction de Sandemosen i Marindalen, qui est le lac qui est au nord d'Oslo, parce que sa mère est d'origine d'une ferme à côté de ce lac. Donc, il va quand même passer son enfance sur la pointe nord du Danemark, et du fait, du coup, de ses parents norvégiens, il va commencer à développer un patriotisme avec la Norvège, et il va se rendre en Norvège à l'âge de 30 ans. Juste avant, il aura déjà rédigé ses deux livres, donc, comme je l'ai dit, du coup, En Flytning, Chrysler Sitspor, et un autre livre, du coup, qui est En Sjømann går i ashore, un marin qui débarque. Donc, c'est vraiment ces deux livres-là qui vont être assez marquants dans ses publications. Quand les Allemands envahissent la Norvège, il va être amené à émigrer en Suède parce qu'il était assez proche des mouvements de résistance norvégiens. Donc, le voici arrivé en Suède en 1941. Ça va aussi lui permettre de publier ces livres-là, enfin, ces deux livres qu'il va traduire. Et ensuite, il va revenir en Norvège une fois que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et il finira ses jours à Copenhague en 1965. Donc, finalement, une personne qui a pas mal voyagé aussi, au travers de toute la Scandinavie. Alors, le livre en question, donc En Flytning, Chrysler Sitspor.
C'est facile.
On
demande à nos auditeurs de le répéter 10 fois.
Un réfugié qui croise son chemin, du coup, va fréquemment être mentionné pour expliquer, pour parler de la vie culture, enfin pour expliquer les pratiques sociales en Scandinavie. Donc, il va permettre notamment d'expliquer ce qu'on appelle la Janteloven, ou aussi appelée la loi de Jante, ou Jenta, si je le prononce en norvégien, qui est ici, en fait, Jenta, c'est une ville imaginaire au Danemark, plutôt industrielle, et dont l'auteur va décrire les codes sociaux au détour d'un discours autobiographique d'un personnage imaginaire, lui aussi, qui s'appelle Espen Arnaka. Alors, du coup, cet Espen, il a commis un meurtre dans un autre livre, du coup, qui est un premier livre publié par le
auteur. C'est une fiction.
C'est une fiction.
On parle d'une fiction.
Et en fait, pendant tout le livre, donc, cet Espen, il va parler de lui, il va parler de comment il vit dans cette ville, et il va également faire un petit peu référence à ce meurtre qu'il aura fait, mais pas tellement, en fait, finalement. Ce qui va vraiment nous intéresser dans ce livre-là, ça va être toutes les descriptions qui sont faites de la ville. Et la ville en question, comme je dis, c'est une ville industrielle et en fait, c'est une dystopie. C'est vraiment pas du tout une utopie. On sent que l'existence est assez pesante dans cette ville où c'est une ville, comme je disais, industrielle avec une population qui est prolétaire, laborieuse et souvent soumise. On va voir aussi des bourgeois qui apparaissent mais qui vont absolument essayer de se ressembler, comme c'est surprenant. Et après aussi, s'agissant de la vie de l'auteur en question, ça va être aussi ça va être beaucoup de souffrance, en fait. Il va parler de son enfance en faisant référence à des traumatismes. Donc il y a un passage du livre où il décrit comment il a vu un cheval se faire foudroyer, se faire abattre par des personnes. Il va parler de ses traumatismes aussi amoureux. Et aussi, on va aussi apprendre que l'auteur en question aura tenté de se suicider 3 fois, en fait, dans son existence. J'en passais des meilleurs. Et en tout cas, le livre, du coup, va permettre de lister ces fameuses règles qui sont souvent mentionnées quand on parle de la vie en Norvège, qui est donc la première, ne pense pas que tu es quelqu'un de spécial.
Ouais.
La deuxième, ne pense pas que tu es aussi bon que nous. Aussi bien que nous. Ne pense pas que tu es plus intelligent que nous. Ne t'imagine pas meilleur que nous. Ne pense pas que tu en sais plus que nous. Ne pense pas que tu es plus important que nous. Ne pense pas que tu es bon en quoi que ce soit. Ne te moque pas de nous. Ne pense pas que quelqu'un se soucie de toi. Et ne pense pas que tu nous apprends quoi que ce soit. Et enfin, peut-être penses-tu que nous ne savons pas certaines choses sur toi. Et en fait, cette dernière règle va être, je trouve, c'est un peu la menace nucléaire quand on est qui fait qu'on n'a pas envie de déborder ou d'aller trop loin avec une autre personne. C'est qu'en fait, peut-être que cette personne, c'est quelque chose d'absolument scandaleux sur nous, qu'elle pourrait le révéler, et on va faire en sorte, du coup, de se comporter de manière à ce qu'elle le révèle jamais. Il va notamment faire mention de ça dans un passage où il explique pourquoi son prof est assez mesuré dans ses rapports aux élèves. C'est parce que derrière, il a peut-être peur qu'un de ses élèves révèle qu'il avait entretenu une relation avec une autre étudiante de la classe, ou que voilà, un peu de dissuasion dans ce monde. Après, donc, les habitants qui traversent Celtois souvent sont considérés avec suspicion et une certaine hostilité. Et ça va être très mal vu, parce que ça va à l'encontre du désir communal de la ville de préserver l'harmonie, la stabilité sociale et l'uniformité. Et le seul moyen finalement de s'en sortir, c'est de partir. Donc c'est ce que va faire, soit de mourir, soit de partir. Donc c'est ce que va faire l'auteur. Il va essayer de se suicider 3 fois, mais il va aussi réussir à s'enfuir et partir vivre une petite vie tranquille de pêcheur. D'ailleurs, en fait, dans les différents passages que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait notamment ce passage avec l'alcool, où il disait qu'il aimait bien boire finalement de l'alcool avec les pêcheurs, qui n'étaient du coup pas des habitants de la ville, ouais. Parce que il sentait moins de pression dans le fait de devoir consommer de l'alcool.
Ah bon?
Et on est au début du 20e siècle, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Et ce qu'il dit aussi, la ville où il habitait, Yantan, c'était vraiment encouragé. Et après, il y avait aussi un autre passage aussi qui m'avait marqué, c'est quand il essaie de se révolter contre l'ordre, donc l'ordre scolaire, où finalement, il a préféré, pour justifier son comportement, il a préféré admettre qu'il était fou, il était devenu fou à ce moment-là.
Wow. Sacrée histoire, ouais.
Ouais, donc voilà, quelques passages. C'est un livre qui se lit assez bien. J'ai pas tout lu, mais ce qui est bien, c'est qu'on a des passages qui sont très indépendants les uns des autres, et on arrive à aller chercher peut-être le passage qui s'intéresse le plus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est juste survoler les chapitres,
ouais.
Et j'ai vu ce qui m'intéressait. Bon, alors du coup...
Mais comment ce livre, qui est une fiction, est devenu ce qu'il est devenu?
C'est la question que je me pose. Impossible de savoir pourquoi il est devenu aussi... J'essaie de trouver des scores de vente, comment il s'est répandu. Alors moi, du coup, une raison que j'ai invoquée, c'est que l'auteur a voyagé, qu'il a sûrement... Il a pu publier pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça ne remettait pas vraiment beaucoup en question l'ordre politique. Mais je suis d'accord avec toi, je ne sais pas comment... J'ai cherché. Mais impossible de savoir comment ça a réussi à percer, ce livre.
Oui, mais surtout, comment les Scandinaves, ils ont dit, tiens, on va prendre ça comme règle de vie, et voilà.
Ah, moi, je pense qu'après, là, le livre, c'est un raccourci, ça permet juste de dresser un tableau. Après, le mode de vie scandinave, en fait, c'est hérité de la culture protestante.
Ouais.
Oui, complètement.
Qui se retrouve avec, finalement, ces éléments dans le livre.
Le livre permet de résumer ça, en fait.
C'est hyper intéressant.
Mais on pourra encore aller plus loin dans la religion avec la Norvège, parce qu'il y a des choses à explorer.
On attend un spécialiste religieux dans Brison la Glace, si vous êtes hyper calé.
Ouais,
n'hésitez pas à nous rejoindre.
C'est dommage, c'est au Danemark. Il y a un curé qui était hyper investi dans le métal, qui est absolument fascinant.
Wow.
Et qui est une figure dans le milieu du métal. Et voilà, comme quoi on peut être... J'aimerais bien qu'on trouve un curé comme ça.
Combiner deux casquettes, quoi.
Voilà, combiner deux casquettes qui sont... pas faite a priori pour se rencontrer, et puis
après j'ai l'impression que chef religieux dans le curé dans le protestantisme, c'est plus y a un peu plus de liberté que dans le christianisme.
Ouais, mais là c'est un curé français et catho.
D'accord.
Donc vraiment curé. Oh, voilà, okay. C'est pas pasteur, quoi. Sinon, j'aurais précisé quand même. Je ne suis pas complètement inculte.
Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a interviewé 20 ans plus tard, après avoir écrit le livre, c'est qu'il disait qu'en fait, explicitement, qu'il a fait en sorte que cette ville ressemble à n'importe quelle autre ville dans les pays scandinaves, et que des gens qui habitent à Arendal ou à Tromsø s'y retrouveraient parfaitement.
C'est hyper intéressant qu'il ait réussi réunir tout le monde sous la même enseigne.
Ou alors ils se ressemblent.
Oui, c'est ça, on ne sait plus.
Sur ce, on va écouter Franz Ferdinand, Right Action.
Brisons la glace.
Eh bien, de retour dans notre podcast Brisons la glace, on a écouté Right Action by Franz Ferdinand. C'était sympa.
Oui, ajoute un peu de une petite touche british.
Mais en parlant de d'artistes, je voulais vous parler du film que je suis allée voir la semaine dernière, Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui est sorti en 2023 l'année dernière et qui depuis a reçu vraiment beaucoup 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 de prix, notamment la Palme d'Or à Cannes, qui a reçu très récemment le prix au Golden Globe aux États-Unis et qui peut-être recevra un prix aux Oscars, je crois que c'est au mois de mars.
Ils ont été nominés.
Ouais, il y a la nomination pour Sandra Hüller qui est la l'actrice principale. Il y a pas mal, de mouvements autour de ce film qui est super intéressant. Il dure, j'ai vu 2h30, je me suis dit, oulala, ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir un film de 2h30, comment ça va se passer. Mais en fait, le film, donc c'est un drame, mais qui nous tient
pas trop,
en haleine.
Aller, hein.
Qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Il y a très peu de moments où j'ai senti des longueurs. Et un jeu d'acteurs extraordinaire sur cette histoire familiale autour de la mort de... du mari, du couple, et voilà. Et donc, on nous emmène dans cette enquête. Et ce film, vraiment, qui m'a touchée personnellement, une vie d'artiste, une vie de couple, beaucoup de choses qui sont remises en question, et des acteurs phénoménaux, vraiment, vraiment.
T'as pleuré ? T'as eu peur ? Est-ce que toutes les émotions y sont passées ?
Non, mais j'ai eu un grand moment de... Ouais, j'étais touchée...
En plein cœur.
C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit, quand il parle d'anatomie d'une chute, c'est parce qu'on rentre vraiment dans le cœur du couple, de pourquoi il y a eu cette histoire. On essaie de comprendre et c'est vrai que ça dissèque un peu la vie de ce couple, Sandra et Samuel, et ça peut toucher vraiment très profond si on est en couple et si on a... qui n'a pas eu des disputes dans son couple. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et il passe encore jusqu'au 1er février à Oslo. Donc je vous conseille, Emma, si tu n'y es pas allée le
que
voir.
Que jusqu'au 1er février, ben, oui, je me dépêche.
Je viens de voir sur ouais. Le site et ça semble s'arrêter. Alors peut-être que si ils sont primés aux Oscars, peut-être qu'il y aura un retour, peut-être. Mais non, je vous le conseille vraiment vivement. Je n'ai pas envie de trop développer l'intrigue du coup, puisque tu as envie d'aller le voir. Donc voilà, révélation, Sandra Hüller en actrice principale, géniale. Ouais. L'avocat joué par Swan Arlo, très très bon aussi. Le meilleur jeune, peut-être que Laura Milo Machado Graner.
Ah, l'espoir.
Pardon, le meilleur espoir masculin. Milo, qui est un petit gosse qui a fait son premier film, qui sort de nulle part et qui joue un enfant aveugle.
Oh.
Non, et dure. C'est vraiment... Ouais, c'est il joue très très bien. Et comment, en fait, parce qu'il est fils unique, quelle est sa relation avec ses parents et sa position, etc. Voilà. Après, on peut aussi reparler de Justine Triet, hein, qui s'est fait remarquer, donc... en recevant sa Palme d'Or.
Et qu'on salue aussi, si jamais
Justine... Si jamais elle passe,
oui. Tu nous entends, c'est avec grand plaisir que nous te recevrons dans l'émission. Ouais.
Et voilà, qui avait soutenu le mouvement des retraites lors de ça, quand elle avait reçu le prix de la Palme d'Or, qui n'est pas beaucoup plu au gouvernement français.
Non, par contre, nous, en tant que féministes, j'avoue...
c'est pour ça qu'on engage...
Cette Palme d'Or féminine et tout, quel bonheur.
Ouais, non, vraiment, allez-y. Après, c'est un drame, hein, c'est pas une comédie. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément... c'est touchant. Donc, c'est un bon moment, mais c'est pas forcément un moment toujours souriant ouais. Et voilà.
Après, ça peut être. J'ai aucune idée du.
Non, fallait aller voir Astérix à Noël. Quoi. Ouais.
Non, après, dans le drame, tu peux trouver du réconfort. Enfin.
Mais il y a quand même pas mal de doses d'humour ici et là dans le film qui un peu permettent de respirer, de dire voilà, il y a quand même de. On sent beaucoup d'humanisme dans le scénario est génial. Il y a vraiment des relations comme ça. Et il y a toute une histoire de procès. Et là, ça prend toute une histoire. C'est vraiment génial.
Bah, en tout cas, je ne sais pas, mais hier soir, c'était lundi soir, moi, j'avais envie d'une comédie. Tu vois, à la maison, là, je... bon, bref. C'est difficile à trouver, en fait, hein. On trouve quand même beaucoup de séries, soit d'anticipation, soit ultra violente, soit forcément de crime. J'aime beaucoup les histoires criminelles, mais hier, j'avais envie de ricaner. Quoi.
Ouais. Ouais, un bon feel good, pas toujours
ouais,
facile.
J'avais envie d'un feel good, quoi. Voilà, un truc un peu léger. Bon, je ne vous cache pas qu'on a atterri sur le.
Est-ce que Ravi Jacob
reboot. Non, non, pire. Le reboot de Magnum. Alors, toi, tu ne dois même pas savoir ce que c'est. Magnum, c'est une série légendaire, genre des années 80, parce que moi j'étais petite quand ça a commencé, mais qui a été genre diffusée jusqu'à la fin des années 90, enfin au moins des milieux faciles des années 90, où le héros, donc c'était Magnum, un homme moustachu, incroyable, hyper viril comme ça, qui résolvait donc des enquêtes à Hawaï, donc avec des plans dans Hawaï absolument sublimes. Donc moi j'ai eu mes premiers émois pour Hawaï grâce à Magnum en troisième, genre, dans les années 90, quoi, voilà. Et donc là, ils ont fait un reboot depuis Tom Selleck, qui était l'acteur, on va dire, mythique de Magnum est mort. Et donc là, le reboot, quoi.
Moustache,
c'est vrai quand on n'a pas la ref. Alors déjà, il n'a pas de moustache, hyper décevant.
Oui, bon,
enfin, pour les gens qui connaissaient la série originale, si tu veux, le reboot. Voilà, hormis les jolies vues d'Hawaï... C'est pas du tout une série que je vous recommande, quoi. Voilà.
Ça réchauffe.
Alors non. Sachez que Anatomie d'une chute est nommée dans.
Non, parce que reviens la note.
Best Picture pour les Oscars.
Bah bien sûr.
Meilleure actrice pour Sandra Hüller. Directeur, directrice.
Réalisatrice.
Ouais, la traduction des fois. On te salue, Thomas Lunebo. Donc meilleure réalisatrice, meilleur scénario.
Bah oui, non,
donc
c'est
on espère qu'il y a
plein,
on espère qu'ils vont au moins gagner un, ça serait génial.
Comme quoi, gagner une palme d'or, ça ouvre quelques portes pour la suite.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le film. Est-ce que je t'ai convaincue, Emma?
Ah oui, mais de toute façon, je vais pas te dire que j'avais pas besoin de toi, ça serait un peu méchant. mais oui, je...
Par curiosité.
Mais même pas par curiosité. Les critiques sont élogieuses de partout. C'est toujours le problème. Moi, d'ailleurs, quand j'ai lu un peu trop de critiques ou entendu trop de critiques élogieuses, j'ai souvent tendance à me retenir, à attendre quelques mois et puis voir le film. Mais est-ce que vraiment, pour toi, le voir sur un grand écran, ça a aussi apporté quelque chose à la narration ou pas?
C'est un film intimiste, donc ça, je pense que ça peut aussi se voir...
Sur son canapé.
Ouais. C'est pas des grandes scènes
Oui, c'est ça, on va pas voir Avatar, quoi.
Non. Et d'ailleurs, demain, je vais aller voir leur concurrent, je vais aller voir Poor Things.
Ah.
Donc, ça sera l'objet d'une prochaine fois, je vous en parlerai si ça vous intéresse.
Ouais.
Ouais.
Carrément.
On va faire une petite pause musicale.
Ben, on va prendre la BO d'Anatomie d'une chute.
Brisons la glace.
Ok, nous voici de retour dans Brisons la glace. Entre-temps, Suzanne s'est échappée. Valentin, mais nous accueillons Stan avec nous.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Stan, ça va?
Ça va très bien, en forme.
Est-ce que vous avez remarqué des tentes devant certains vins monopolettes à Oslo?
Alors, l'année dernière, j'ai entendu parler de files d'attente devant le vin monopolette pour des offres du coup de vin.
Ouais.
Moi,
toi,
ça me dit rien du tout.
Ça vous dit rien du tout.
Non.
Alors, si vous allez à Akerbrygge, sachez qu'il y a, je crois, une dizaine de personnes qui campent, dont certains depuis le 1er janvier.
Oh merde.
Ouais. Et pourquoi donc? Parce que le 2 février, c'est l'arrivée donc, des Bourgognes dans le marché norvégien. Et alors, il y a plein de choses à savoir sur la Bourgogne dans les vins monopolettes. Que vous avez quelques infos là-dessus ou une connaissance quelconque des vins bourguignons?
C'est cher.
C'est cher, mais pourquoi c'est cher?
Parce que c'est prisé, j'imagine.
Ouais, c'est pas mon sang bourguignon qui va faire dire le contraire. Hein. Mais en fait, là, donc c'est des très grands crus qui sont mis en vente. Il faut savoir que les productions sont minuscules.
Mm-hmm.
Comparées à du Bordeaux, par exemple, la production de Bordeaux, elle est gigantesque. Quand tu as 10 hectares, je ne sais pas combien de bouteilles Bordeaux va faire, la Bourgogne va faire 10%.
Mm-hmm.
va produire 10% du raisin. Donc du coup, effectivement, c'est des vins rares, c'est des vins chers, mais c'est aussi les meilleurs vins du monde. Donc voilà. Et donc là, on parle quand même de bouteilles à plusieurs zéros. Hein, vraiment, on parle du minimum autour de 6 000 euros, hein, 60 000 couronnes.
Ça va
Ah oui.
Oui, oui. Quand je dis des très, 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 très grands vins, c'est, je pense que, bah, sauf si vous avez l'occasion, mais bon, c'est pas des vins que nous, personnes normales, pouvons boire tous les jours, n'est-ce pas? Et alors donc. Donc moi, je passe devant un cœur brigueux très souvent, donc je les vois, les messieurs. C'est vrai que je n'ai jamais osé aller leur parler. Mais j'ai trouvé un article où, là, qui date d'hier, du site E24, qui a été interviewé, donc Henrik et Léonard. Et Henrik et Léonard, ils sont là donc, depuis le 1er janvier, vraiment. Donc ils ont fait la teuf du 31 et tout, mais il y a Léonard qui n'a pas bu. Du coup, ils ont pris la casse et ils sont venus s'installer devant Vin Monopolette. L'année dernière, Henrik, il était numéro 6. Donc, il n'a pas pu acheter vraiment, parce qu'en fait, selon l'ordre dans lequel tu arrives dans cette queue pour les Bourgognes, c'est on t'attribue un numéro. Hein. Je ne sais pas si vous êtes fan d'artistes aussi, c'est un peu pareil. Quand tu es vraiment fan, moi, j'en sais rien, de Beyoncé, tu vas, y a des gens qui campent depuis une semaine, et voilà, ils se reconnaissent entre fans, ils ont des numéros. Bon, bah là, on est sur le même phénomène, sauf sur des bouteilles de vin. Donc voilà, donc les gars, quand même, ils ont que ça à faire. Hein, pendant un mois, camper 24-24.
Faut le faire, hein. Surtout par ce temps-là.
Ça, les moins 20, quoi.
Ouais.
Ils posent leur tente, ils vont dormir.
Et puis alors là, donc, on a eu quand même des épisodes extrêmes, donc je pense qu'on peut leur...
C'est une grande preuve de fidélité.
Ouais. Mais alors, il faut quand même savoir qu'il y a une tente hein, devant le Vin Monopolette qui est installée et qui est payée par un fonds norvégien, Norwegian Council. Et donc, qui est tolérée et acceptée par la ville d'Oslo et par le Vin Monopolette qui les laisse faire ça. Voilà, donc là, Léonard et Henrik, apparemment, sont de véritables amateurs de vin. Donc, eux, ils viennent vraiment faire la queue pour l'aventure, parce qu'ils trouvent ça drôle, qu'ils ont les thunes, hein, j'imagine qu'ils peuvent prendre un mois de vacances et en plus claquer 150 000 couronnes dans du vin va te faire plaisir, mon gars.
Ils pourraient faire du ski de fond en plus.
Ils sont inscrits à la salle de sport, on apprend plein d'infos. Hein. Ils sont inscrits à la salle de sport, sans doute celle où je vais, à Körbring. Où donc ils peuvent aller prendre des douches et tout ça, et puis donc faire un peu de sport, parce que quand même, voilà. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont prévu cette année, ils se sont mieux équipés, ils ont acheté des sacs de couchage plus épais, ce qui leur a apparemment, ils disent que eux, même pendant l'épisode de froid, ils pensent qu'ils n'ont pas eu froid du tout. Dans leur tente, ils ont un petit salon, des jeux de société.
Ah oui, plein confort, quoi.
J'espère quelques bouteilles, quand même, sinon ça sera un peu con. Et donc, voilà.
Mais ils ne peuvent pas se fournir à l'étranger ?
Alors, figurez-vous, j'allais y venir, c'était la suite de ma chronique. Figure-toi que les vins bourguignons sont même moins chers en Norvège qu'ailleurs dans le monde.
Pour quelle raison ?
Ouais, alors, les très, 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 très grands crus.
Et les très 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 très, très grands crus, voire même non pas forcément les très 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 grands crus. Moi par exemple avec mon sang bourguignon, j'ai la chance donc d'aller directement chez les producteurs. Alors il faut savoir que les Bourgognes, justement les hauts crus sont quand même très prisés, donc ils ouvrent de moins en moins leurs portes et tout ça. Mais par exemple le Meursault, qui est un blanc extrêmement connu, reconnu, qui se vend à peu près à 50 euros la bouteille en France. Donc on est sur un grand vin, mais on n'est pas sur un Romane Conti là, à 8000 euros. Et ben par exemple, moi j'ai acheté chez le producteur dans Meursault. Donc il a une petite boutique, j'imagine qu'il met un petit peu là, quelques euros en plus pour faire tourner sa boutique en plein cœur de Meursault. Elle coûtait 10 euros moins à Oslo.
Ah oui.
Ce qui deviendrait quand même absurde d'acheter. Donc en gros, dès que vous avez des bouteilles, en tout cas sur les Bourgognes, qui dépassent... on va dire au prix en France d'une quarantaine d'euros, à partir de 400 couronnes, en fait, les très grands vins, enfin les super bons vins, deviennent quasiment moins chers qu'en France. Et ouais, ça c'est
malgré
les
taxes et tout ça.
Et ouais, voilà. Par contre, là où tu te fais vraiment avoir, c'est sur les habitudes à la française d'acheter des petits vins d'apéro à 10-15 balles. Ceux-là qu'on paye, nous, 200 couronnes ou plus.
Ouais.
Par contre, dès que tu arrives vers 300 couronnes, et ben là, tu as plutôt les vins qui sont déjà à 24-25 balles.
D'accord.
C'est plutôt entre les deux où on se fait le plus avoir.
Intéressant.
Voilà. Si tu bois peu et que tu as envie de boire très bien, je te conseille de mettre un minimum de 400 couronnes dans les vins français.
Et alors, est-ce qu'il y a une, d'autres queues dans les autres villes monopolettes ou alors,
alors il y en a dans le
celui-là.
Reste de la Norvège. Mais le ville monopolette d'Akerbrygge est celui, en tout cas, qui reçoit les très grands vins. Il faut savoir que là, les gars, ils font la queue depuis le 1er janvier, mais ils ne savent pas non plus, ils n'ont pas encore eu la liste des vins. Elle n'a pas été dévoilée, elle n'est dévoilée qu'une semaine avant. Et j'ai regardé aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, donc elle n'a peut-être pas encore été dévoilée. Mm-hmm. Mais voilà, mais en tout cas, ils disent, enfin, Léonard et Henrik, donc qui campent, si vous voulez aller les voir, ils n'ont que 3-4 personnes qui leur posent des questions par jour. Donc ils disent qu'il ne faut pas hésiter à leur saluer la paluche, comme on dit. Hein. Et donc voilà, bah, ça c'était donc, la raison des campeurs du vin monopolette.
Et, bon,
et on va s'écouter, on va s'écouter un morceau.
On va s'en jeter
un petit, on va s'en jeter un petit qui va bien avec. Et je suis fier. Ah voilà, comme ça on reste dans l'ambiance.
Bourguignon. On pourra faire un bon bourguignon après.
Ouais, c'est ça. Oh, c'est bien, ça c'est bon, Stan, tu marques des points là. Tu as du sang bourguignon toi aussi?
Du sang, non, mais j'ai déjà été en Bourgogne. On a une maison en Bourgogne, donc j'y vais très souvent.
Ah, on sent des points encore.
On connaît bien la région. Ouais.
Et sinon, j'avais envie qu'on parle aussi d'autre chose. C'était donc un nouveau métier. Hein. On peut l'appeler comme ça. C'est le data journalisme. Ou data journaliste, plutôt, le nouveau métier. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les rédactions, notamment françaises, les norvégiennes, je sais un peu moins, mais s'entourent de plus en plus d'analystes de data, etc. Et donc, maintenant, on parle de data journalistes, qui sont des journalistes donc, qui analysent les datas et les interprètent. Alors, il y a un monsieur qui est très, très drôle sur Internet qui fait un site qui s'appelle danmonlabo.com. Et danmonlabo.com, par exemple, donc, c'est mis à jour tous les jours. Hein, il prend les datas sur une dizaine de médias français. Et donc, depuis 3 jours, les médias en français, ils se sont plongés dans à peu près 20 tourmentes. Donc, il reprend toutes les expressions qu'on retrouve le plus dans les articles de la presse française. Et ensuite, il donne une note à qui utilise le plus de phrases toutes faites, en fait. Hein. Donc, depuis 3 jours, les médias en France se sont plongés dans 20 tourmentes, ont tiré 18 sonnettes d'alarme, ont déclenché 16 claps de faim, ont eu 15 fois le vent en poupe, on se sont retrouvés... Oh là, attention, ça change, c'est en direct, c'est, on a, parce que sur le site, c'est génial, il y a des petits bonhommes qui avancent au fur et à mesure du scroll. Donc, on se sont retrouvés 12 fois à la croisée des chemins. Ils ont trouvé une source proche de 10 dossiers environ. Ils ont fait la résistance 9 fois, enfin bon, bref. Et ça continue pour faire après. Donc, on a une sorte de data qui défile et qui reprend les plus grandes expressions comme ça utilisées et qui varient donc selon les journées. Donc, depuis le 23 janvier, au 23 janvier 2024, il y a 243 médias qui ont tiré la sonnette d'alarme, par exemple.
Ah oui, d'accord, quand même.
Voilà.
Et on parle de tous médias confondus, là, du coup ?
Alors, attendez, je vais retrouver la source. Où est le top 20 des médias les plus présents dans Google ? Donc, il utilise Closer, Le Figaro, Le Parisien, Télérama, Le Républicain Lorrain, 7 sur 7. Enfin, bon, bref, il utilise la source de... Il va chercher ses sources dans plein de médias.
Donc, c'est de la presse en ligne ?
Après, en tant que journaliste, il est abonné à... Il doit être abonné à Capital. Il est peut-être faisait partie d'une journaliste. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Hein. Je n'en avais pas entendu parler avant de tomber sur son site.
Et c'est vrai que les analyses en données, elles sont vachement développées en 10 ans. Enfin, déjà, pour les données, rien que ça a commencé, je pense, avec les élections déjà. Maintenant, à chaque élection, on a des cartes dynamiques qui apparaissent avec des zooms sur les cantons. Et puis après, non, ça va. Moi, je suis toujours assez impressionné maintenant parce que peut faire même des sites comme France Info qui n'étaient pas forcément
super. Il est super le site de France Info, je dois reconnaître. Même leur format court, vidéo et tout sont extrêmement bien faits.
Mais après, même au-delà de ça, en fait, il y a le fait qu'il y a des journalistes qui utilisent des données. Et puis après, il y a le fait aussi qu'avec Internet, maintenant, des personnes vont se réunir pour pouvoir enquêter ensemble, en fait.
Oui,
et
c'est ça.
Ils vont même être vont pouvoir aller très loin dans la capacité à retrouver des données. Alors par exemple, c'était Navalny, enfin quand c'est un opposant russe du coup qui s'est fait empoisonner dans un avion. Mais il se trouve qu'elle a une fois, enfin, il s'est fait emprisonner dans un avion, il était hospitalisé, mais il se trouve qu'à un moment, il a réussi à se pointer devant la porte de la personne qui avait vu du poison.
Oui, j'ai vu la vidéo. Oui,
et en fait, je crois que c'est sur le site de Radio France, on a Mécanisme du journalisme, et il parle en fait de l'enquête qui a été menée derrière, parce que du coup, c'est pas la police russe qui a mené l'enquête, c'est une foule de personnes, d'internautes. Et en fait, il se trouve qu'en Russie, les données de passeport, elles sont Il y a beaucoup de données qui transitent, en fait, transitent. Et ça comprend notamment les données voyageurs. Donc, en fait, des compagnies aériennes sont capables de faire fuiter leur dossier, les dossiers des voyageurs qui ont emprunté le vol, par exemple, de Navalny. Et à cela aussi s'ajoute le fait que les données aussi des portables, des portefeuilles de contact peuvent aussi sortir. Ton portefeuille de contact, par exemple, peut sortir aussi en ligne. D'une manière ou d'une autre, il peut être piraté. Et ce qui se passe en Russie, c'est que parfois, ce qui était courant, c'est que quand il y a une personne qui t'appelle, tu la suspectes d'appartenir à un renseignement, un service de renseignement, KGB. Les personnes vont noter, par exemple, le KGB, du coup, ne pas répondre. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, en surfant sur des données volées, donc qui associaient du coup les données, les données voyageurs et les données pompées, siphonnées sur les portables, mais en fait ils ont réussi à retrouver que il y avait deux personnes dans ce vol là ou une ou deux personnes qui appartenaient au KGB. Et comme les données de passeport aussi apparemment circulent, en tout cas les adresses circulent aussi, Navalny a réussi à se pointer au domicile de la personne qui l'a empoisonné. Et c'est pas des journalistes en fait qui font ça, ça peut être encadré par des journalistes, mais il y a un site sur Arte, il y a une série de reportages qui s'appelle Citizen Fact. En fait, la journaliste ou le journaliste s'appuie en fait sur des internautes qui juste passent leur week-end, leur soirée en fait à naviguer sur Internet et à.
Alors, je vais faire mon ancienne encore une fois, mais à la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, je ne vous cache pas que je faisais partie d'un groupe Facebook d'internautes comme ça qui cherchaient. Et c'était complètement fascinant. Hein. Ça a même permis les enquêteurs. Alors, c'est pas moi. Je n'ai rien permis aux enquêteurs, je crois. Mais en tout cas, moi, j'avais retrouvé le forum sur lequel il postait beaucoup de questions où il se questionnait sur la foi, etc. Enfin, bon, bref, tout le monde s'échangeait les liens. Enfin, c'était une contre-enquête d'internautes. Voilà. Alors, il y en a qui étaient plus dédiés que d'autres, hein, évidemment. Mais ça a permis de mettre à jour pas mal de trucs. Notamment de trouver ces pseudos, justement. Et tout ça en ligne. Il a suffi qu'un mec partage ça dans le groupe et on a tous été explorés. Enfin,
il se passe ça. C'était pour assez marrant. Pour la disparition du bébé là, en Savoie, ou je sais plus.
Oui,
Émile. Jusque-là, ça n'a pas.
Mais il y a des groupes qui se forment en fait par rapport à ça. Ouais.
Et c'est très puissant, surtout aux États-Unis, j'ai vu ça. Mais en fait, la police ne recommandait de pas prendre part à l'enquête. Parce que là, en tête, en fait, j'ai un souvenir d'une fille qui a disparu. Et en fait, elle avait disparu dans un petit village, je ne sais plus dans quelle région c'était exactement. Il se trouve qu'il y a des gens, des journalistes et des enquêteurs personnels, enfin des particuliers qui sont venus vraiment de tout le pays juste pour pouvoir faire leur propre enquête. Et en fait, ça entravait un peu l'enquête de la police. Ça pouvait détruire.
Ah bah bien sûr. Ouais. Là, on l'a vu avec l'affaire Jubilar aussi.
Surtout avec.
C'est pour l'incollable.
Avec l'affaire du petit Grégory à l'époque.
Tu parles à quelqu'un qui enregistrait les voix du corbeau en 2002.
Ah oui, d'accord.
Je vais passer pour une grosse folle. On va voir une autre face. Passion. Serial killer.
Pardon ?
Ça te plaît les data, Valentin, non ?
Les marges du journaliste, j'aime bien. Après, le problème avec la donnée, c'est que finalement, on va capter qu'un versant de la réalité. Enfin, je vais partir un peu en philo, mais on capte qu'un versant de la réalité, quoi. Donc, il y a de plus en plus de données qui circulent sur Internet avec l'open data. L'administration publie en ligne leurs données. On peut utiliser les données réseaux sociaux, mais. Quelle réalité on capte là ? On est peut-être à une époque où on est saturé d'informations et de données. Je ne me vois pas trop consacrer tellement d'énergie à ça. Plutôt à ce qui se passe, ce qui se dit dans la rue.
En tout cas, moi, je me souviens, on parlait que de data journalisme, mais en tout cas, pendant le Covid, je ne sais pas vous, si vous étiez accro au site qui mettait à jour le.
Ouais. Je regardais tout le temps.
C'est que la force du data aussi est rentrée complètement dans nos vies. Il y avait moi, j'ai le souvenir, là, pendant le Covid, j'avais limite plusieurs onglets avec ce truc. C'est complètement anxiogène. Ça allait beaucoup mieux quand on a arrêté de regarder, quoi. En tout cas, je voulais juste terminer par une des dernières phrases qui m'a fait un peu marrer dans les trucs de notre ami dans monlambeau.com, là. On a vu quand même, les médias français ont vu des bouts de 7 icebergs pour finir sur une note norvégienne. Et je pense que ça va être la fin de cette émission.
Hein,
ça sent le sapin ou ça sent l'iceberg au choix. Et on va se quitter avec une chanson encore en hommage au vin que j'ai pas du tout passé tout à l'heure. C'est du rap norvégien. Et donc vous allez voir, c'est une ode au cépage, j'ai envie de vous dire. Et donc le groupe s'appelle Yogutene, super groupe de rap norvégien, et le morceau s'appelle Sirin. Ja, en nyter også et Hansa-øl på fat. Jeg er faen, jeg går dum.